Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Delphine Pagès-El-Karoui, bonjour.
Bonjour.
Avec vous, nous allons visiter les villes égyptiennes, nous allons revisiter l'urbanisme passé et contemporain, au Caire en particulier, mais aussi dans le réseau secondaire des villes égyptiennes, puisque c'est ce réseau secondaire qui constitue votre spécialisation. Vous êtes géographe et vous enseignez à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Peut-on revisiter déjà le passé de l'Égypte et de la formation des villes en Égypte, parce qu'on sait que le Caire n'a pas toujours été le centre névralgique urbain dans l'histoire de l'Égypte, en particulier au temps des pharaons. Le Caire n'existait pas, en fait.
Il faut peut-être juste un petit peu rappeler justement sur cette idée de centre du monde, parce que le Caire, en égyptien, on l'appelle quand même Omeddounia, donc la mer du monde. Donc il y a quand même un jeu sur cette centralité, un poids à la centralité kairote qui est très fort. On peut dire aussi que le nom du Caire, Masr, a donné son nom au pays. Donc il y a vraiment un lien très fort entre la capitale et le pays. En revanche, vous avez raison d'insister sur le fait que c'est pas non plus une capitale éternelle. D'abord, effectivement, elle est pas si ancienne que ça par rapport justement aux villes pharaoniques. À l'époque pharaonique, on peut citer les deux grandes villes de Memphis, sur un site qui était assez proche, hein, on va dire à 30 km au sud du Caire, ou la ville de Thèbes, hein, l'actuelle Louxor, ou encore, plus tardivement, mais à l'époque d'Alexandre le Grand, et puis toute la période hellénistique, l'époque romaine, Alexandrie aussi, évidemment, a joué un rôle tout à fait fondamental. Donc, voilà, on est un petit peu entre cette ambivalence-là, hein, le Caire, centre de l'Égypte, voire mer du monde, Omeddounia, et puis à la fois, c'est bien de relativiser. Donc on en parlait de Memphis tout à l'heure, mais il y a quand même, là on est quand même sur un site, ou plutôt une situation particulière, puisque cette situation se trouve exactement en ce qu'on appelle l'apex du delta, c'est-à-dire au sommet du delta, et donc un point de contrôle, en fait, à la fois de la vallée et à la fois du delta. Donc d'un point de vue géographique, stratégique, cette situation, elle est très importante.
Et elle l'a toujours été, en fait.
Et voilà, et d'où l'importance, par exemple, de Memphis avant. Et on est sur un site particulier aussi. Vous avez des escarpements à l'est, qu'on appelle les collines du Mokattam, et qui permettaient aussi d'offrir un côté, en fait, défensif. Donc, du coup, effectivement, par rapport à la fondation, généralement, on la date de 640, hein, avec Fustat, qui est en fait la ville qui a été fondée par les conquérants arabes, donc venus d'Arabie après la mort du prophète. Ce qu'on peut dire toutefois, parce qu'on a évoqué Memphis plus au sud, hein, qui était la capitale de l'ancien empire, qui est aujourd'hui à proximité de Saqqara, pour les gens qui connaissent ou qui visitent l'Égypte. On peut évoquer aussi avant la ville d'Héliopolis, qui aujourd'hui est enserrée dans le Caire, puisque en 1906, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a une ville nouvelle qui a été construite sur ce site, mais avant...
C'était une ville qui existait déjà.
Voilà, c'était une ville à l'époque pharaonique, historique. Avant, voilà, hein, moins 3000 ans avant Jésus-Christ, et qui a été en fait une capitale assez éphémère, mais du premier royaume unifié, justement, de la Haute et de la Basse Égypte. Hein. Et je crois que cette image, elle est assez forte, enfin, on en a des souvenirs, quand on étudie l'Égypte avec cette double couronne, la couronne de la Basse et de la Haute Égypte, bah, le Caire se situe vraiment en situation stratégique entre les deux espaces.
Alors pourquoi est-ce que les conquérants arabes ont choisi un site autre que celui de Memphis? C'est un site qu'ils ont bâti, commencé à bâtir à partir de rien.
Alors, il faut quand même rappeler qu'ils ont bâti Fustat juste à côté d'une... Il y avait une forteresse romaine, quand même, hein, qui portait le nom de Babylone. Et Fustat s'est installé juste à côté de cette forteresse, dont là aussi, quand on se promène dans le Caire copte aujourd'hui, on voit quelques vestiges, les remparts d'une tour de cette forteresse. Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont installé un camp militaire. D'ailleurs, Fustat, en arabe, ça veut dire le campement. Et donc ça, c'est le premier noyau du Caire d'aujourd'hui. Et justement, là aussi, si on se réfère au Caire d'aujourd'hui, cet ensemble, donc l'ancienne Babylone et Fustat, ça forme ce qu'on appelle aujourd'hui le vieux Caire. Hein, donc le Caire copte, si vous allez visiter les églises du Caire copte, ce qu'on dit aussi Masr el-Adima, donc le vieux Caire, ça correspond exactement à ce premier noyau, on va dire, hein, de Babylone plus Fustat.
Alors, on connaît aussi la construction de la citadelle par Saladin en 1176. Est-ce que c'est à peu près au même endroit? Est-ce que ça correspond aussi au Caire copte aujourd'hui?
Alors non, justement, en fait, entre la construction de la citadelle sous les Ayoubides et Fustat, il y a une deuxième fondation, en fait, qui date de 969 et qui est la fondation justement de El-Kahira, donc le Caire, hein, d'où vient le nom du Caire.
Qui veut dire la victorieuse. Hein.
Qui veut dire la victorieuse. Et donc qui aurait été nommée par rapport à la planète Mars qui se serait trouvée dans le ciel à ce moment-là, à son zénith. Et donc, bon, ça c'est un peu le côté autour de la cosmogonie, sur la fondation de la ville. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une dynastie qui s'appelle les Fatimides, qui sont venus de Tunisie et qui est une dynastie chiite. Hein, et donc, c'est eux qui fondent donc le Caire. Alors là, on est quand même beaucoup plus au nord, nord-est du quartier de Foustat. Donc, c'est très important de montrer que ce sont deux centres qui sont pas du tout agglomérés, hein, qui sont deux centres assez lointains. Donc, c'est aujourd'hui, quand on se promène au Caire, c'est toute la région autour de El Azhar, de Khan el Khalili, ce qu'on appelle le cœur du Caire islamique aujourd'hui. Mais donc, qui est, encore une fois, assez éloigné de Foustat. Et alors, vous avez évoqué la citadelle. Donc, justement, en fait, la citadelle, ça permet un petit peu, puisqu'elle se situe
encore en dehors, mais pratiquement
à mi-chemin, en fait, entre les deux. Donc, on peut dire que la citadelle, elle permet de faire un petit peu le lien entre ces deux premières fondations. D'autant plus que, bon, on l'a pas évoqué, mais un petit peu avant, il y a eu aussi la fondation d'un quartier par les Toulounides, hein, autour de la mosquée de Ibn Touloun, qu'on voit toujours aussi. Et donc, là, petit à petit, c'est comme ça que se crée en fait une continuité entre ces différents fondements de ville. Et c'est aussi à ce moment-là que, parce que justement, il y avait une sorte de concurrence en fait un petit peu entre les deux, entre Foustat et El-Kahira. Foustat étant situé à proximité d'une ville, étant plutôt le port, et a justement eu tendance, au fur et à mesure que El-Kahira devenait prédominante, à spécialiser dans le côté avant-port de la ville, jusqu'à ce que le Caire l'emporte sur Foustat. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on a commencé à utiliser le nom de Masr, donc la grande métropole, la capitale, au moment où justement ces deux centres en viennent à se réunir.
Donc le Caire, multitude de petits ensembles, de petites villes ou petites citadelles. Aujourd'hui encore, cette architecture, enfin cette organisation de la ville est encore très visible.
Voilà, même s'il y a eu quand même, évidemment, des quartiers qui ont été détruits, reconstruits, donc ça, c'est pas aussi linéaire, mais en tout cas, c'est vrai que aujourd'hui, en fait, on perçoit encore assez bien ces axes, hein, et notamment à travers des grands axes de la ville, qui sont des axes historiques. À l'époque Mamouk, donc un petit peu après, il y a une grande avenue qui s'appelait la Krasaba et qui est aujourd'hui la rue Al-Mouiz, qui est vraiment une des grandes artères, en fait, de ce Caire qu'on appelle aujourd'hui islamique.
Venons-en peut-être maintenant à la période ottomane. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Caire change beaucoup dans cette période-là?
Ben, le Caire, oui, s'étend. Et vous savez qu'aussi sa fonction commerciale se renforce beaucoup. André Raymond l'a étudié avec, autour du commerce des épices, notamment du café. Donc c'est là aussi où se multiplient les caravansérails, etc., pour permettre d'accueillir les structures nécessaires à ce commerce.
Est-ce que la ville s'est beaucoup étendue durant cette période en gros, entre 1517 et puis la fin du XVIIIe siècle?
Alors, peut-être ce qu'on a oublié de dire, c'est que le cours du Nil s'est aussi beaucoup déplacé. Hein, et donc, aujourd'hui, il est beaucoup plus à l'ouest que ce qu'il n'était. Et donc, sur toute cette partie donc orientale de la rive du Nil, qui était autrefois des terres qui étaient submergées, cultivées, mais submergées une grande partie de l'année à cause de la crue. Hein, il faut rappeler que pendant très longtemps, il y avait la crue. Hein, et donc, ces terres-là, en fait, ont été gagnées progressivement. Et c'est là qu'il y a eu une urbanisation massive. Donc au XIXe siècle, alors là, sur des superficies énormes. Alors peut-être ce qu'il faut rappeler, c'est que aussi puisqu'on parle d'urbanisme, sur un modèle urbain radicalement différent. Hein, parce que jusqu'à l'époque ottomane, on est dans un modèle de ville très dense, labyrinthique, avec des impasses, enfin, bon, un peu l'image de la ville arabe. Et ce qui se passe au XIXe siècle, c'est qu'il y a un changement total de modèle urbain. Et là, on s'inspire de modèles occidentaux.
C'est le souverain Ismaïl qui vient à Paris, qui rencontre Haussmann et qui reproduit un petit peu cet état d'esprit de faire des grandes avenues, de tracer vraiment la ville sur une carte en sachant, voilà, il y aura tel centre, telle avenue qui va donner telle chose. Il y a cette reproduction un peu haussmannienne qui se passe au Caire.
Oui, hein. Oui, c'est là, enfin, le modèle, il est clairement revendiqué, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, c'est à la fois dans la voirie, donc une trame totalement régulière, avec surtout des grands espaces, hein, dans ce qu'on qualifie de ville arabe ou de ville traditionnelle. Encore une fois, tout est très étroit, il n'y a pas de grandes artères. Ou alors, justement, c'est à cette époque-là, au 19e siècle, qu'on va percer des grandes artères. Hein. Et donc, par exemple, la rue qui mène à El Azhar aujourd'hui, c'est une rue qui a été percée au 19e siècle. Hein. Et donc, entre les grands centres, il y a un jardin aussi qui est créé. Donc, c'est pareil, il n'y avait pas du tout d'espace vert. On crée des jardins. Je pense au jardin de l'Esbekia, qui était un ancien lac qu'on a asséché, qu'on a transformé en jardin, un petit peu là aussi, hein, sur un modèle des grands jardins du 19e. Et de cette place-là, qui devient en fait le nouveau centre moderne du Caire, on créer des grandes artères, donc qui relient Esbekia à El Azhar, ou qui relient aussi Esbekia à la mosquée du sultan Hassan. Et donc là, on remodèle aussi, enfin il y a deux dynamiques, on remodèle la ville ancienne, hein, pour justement la rendre plus accessible, et on crée de toutes pièces de nouveaux quartiers, et donc là encore sur un modèle radicalement différent. Donc j'ai parlé de la trame
occidentale
complètement, et avec aussi des types de bâtiments qui sont nouveaux. Le théâtre, ça va être l'opéra, ça va être les grands magasins, ça va être le marché couvert. C'est des rues à l'arcade là aussi selon un modèle européen, même directement français. C'est des immeubles à rotonde. Enfin, quand on se promène aujourd'hui dans ce que les Égyptiens appellent le centre-ville, West El Balad, qui est donc en fait, enfin pour nous le centre-ville c'est un centre historique. Là c'est le centre du 19e. On a l'impression de se retrouver à Paris ou en Italie. Enfin, il y a vraiment une architecture italienne. Et d'ailleurs, ce sont des architectes européens qui construisent...
Qui ont construit dans un laps de temps assez court, en fait. C'est les années 1860-1870.
Oui, alors ça se prolonge quand même, hein, jusqu'à l'entre-deux-guerres, parce que tout le quartier aussi autour de la place Talat Harb, en fait, il y a un glissement progressif vers le Nil, hein, vers l'ouest. Alors ça aussi, c'est intéressant parce que...
Sur des zones agricoles.
Voilà, sur des anciennes zones qui étaient soit agricoles, soit qui avaient été entre-temps plantées ou boisées, mais qui sont effectivement réappropriées par la ville. Et on glisse comme ça progressivement vers le Nil. Ça peut être intéressant, mais ça correspond plutôt à la période actuelle. Mais il y a aussi une réappropriation des berges du Nil. Hein. Et aujourd'hui, un des grands axes du Caire, c'est la corniche. Et elle a été aménagée de façon... tous les grands hôtels se trouvent le long de la corniche. Enfin, il y a eu une réappropriation progressive du Nil. Mais au départ, la ville n'est pas forcément centrée sur le Nil.
Et à cette époque, il y a vraiment deux villes, du coup. La ville... occidentale et puis la ville ancienne.
Oui, alors là pour le coup qui sont continues, hein, elles se juxtaposent, et justement les percées que j'évoquais, c'est un moyen de les relier, hein, de faire en sorte qu'elles soient pas justement simplement à côté, mais qu'on puisse circuler de l'une à l'autre. Mais c'est vrai que
il y a un quartier de rue qui sont anarchiques, enfin qui sont organisés de façon non régulière, et puis
tout à fait
vraiment un quartier régulier, enfin géométrique quasiment.
Voilà. Et bon, enfin aujourd'hui encore, hein, quand on se promène dans le Caire, on voit très bien le contraste, hein, de paysage, même si évidemment ce qu'on voit aujourd'hui de ce Caire islamique, ce Caire historique, il y a eu un renouvellement du bâti total. Donc les immeubles que vous voyez sont des immeubles généralement récents. Mais globalement, la trame vieille est restée la même, sauf en cas de création de grandes percées. En termes de modèle urbain, ça n'a rien à voir.
Nous marquons une toute petite pause.
La médiathèque de Canal Académie, c'est plus de 800 émissions en libre téléchargement. Vous avez aimé ce programme ? Vous avez apprécié cette émission ? Vous aimeriez réentendre cet académicien ? Retrouvez cette émission dans la médiathèque de Canal Académie. Le téléchargement est gratuit.
Delphine Pagès El-Khaoui, à partir de l'entre-deux-guerres, le Caire connaît une croissance assez phénoménale d'un point de vue de la démographie, le taux de mortalité chute, l'espérance de vie augmente, et bien sûr il y a une sorte d'immigration intérieure qui fait que de plus en plus de gens attirés par une politique industrielle sont amenés à venir au Caire.
Mmh. Oui, tout à fait. Il y a la conjonction de ces deux facteurs. Un facteur qui est strictement démographique. Enfin, bon, ils sont liés, mais un accroissement de la population et puis aussi des migrations très importantes, hein, bon, qu'on appelle migration d'exode rural, où de plus en plus de gens vivant dans les campagnes, ça peut être les campagnes lointaines aussi, hein, il y a beaucoup de gens qui viennent de Haute-Égypte, viennent s'installer au Caire. Et donc, ce double mouvement va effectivement contribuer à accélérer la croissance du Caire considérablement. Pour vous donner un peu des chiffres, on a à peu près 1 million d'habitants en 1927, hein, donc justement, période d'entre-deux-guerres.
Donc, première ville à avoir 1 million d'habitants en Afrique.
Oui, alors on a peut-être oublié de dire tout simplement qu'effectivement, le Caire, avec aujourd'hui entre 12 à 13 millions d'habitants, c'est à la fois la première ville du monde arabe et puis aussi la première ville d'Afrique. Hein. Donc, effectivement, c'est une ville énorme par la taille. Donc, globalement, en fait, la croissance, elle s'amplifie à partir de la seconde moitié, hein, du XXe siècle. Puisque en 1966, elle n'avait encore que 4 millions d'habitants. Donc, on passe quand même de 4 millions d'habitants en 66 à aujourd'hui 12-13. Avec ces chiffres, je crois qu'on a quand même une idée de l'extrême rapidité avec laquelle cette croissance se fait et donc d'un certain déséquilibre qui se crée. Parce que finalement, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, vous avez une extension rapide de la ville, donc notamment d'un point de vue spatial, sur un mode qui reste encore équilibré, c'est-à-dire que les infrastructures suivent. Vous avez, par exemple, dans tous les quartiers occidentaux, qui sont les nouveaux quartiers, on peut penser à Garden City ou... Plus tard, donc là aussi, à partir des années 50, la colonisation de l'autre rive, la rive occidentale, les quartiers de Dohi, de Mohandessin, où là, dans un premier temps, vous avez une croissance, avec, bon, pour les populations les plus aisées évidemment, mais par villa. Hein, donc un habitat individuel avec une villa entourée d'un jardin, etc. Bon, ce qu'on va voir, c'est qu'après, il y a une telle densification que maintenant, ce mode-là n'existe plus au Caire. Hein, on est pratiquement, enfin, l'habitat individuel a totalement disparu du rue. On est dans des immeubles qui sont extrêmement élevés, très denses, hein, et donc ce qui fait que le Caire, c'est aussi une des villes les plus denses du monde. Il y a très peu d'espaces verts, il y a très peu, enfin tout est très, la trame est très resserrée.
Et plusieurs familles habitent dans le même appartement.
Effectivement, cette image-là de plusieurs familles qui peuvent habiter dans le même appartement, hein, avec des partages d'appartements où vous avez une famille par chambre, donc ça c'est effectivement quelque chose qui existe. Et vous avez aussi, d'ailleurs c'est très bien décrit dans un ouvrage qui a beaucoup de succès, qui s'appelle L'immeuble Yacoubian, de Alaa El Aswany. Vous avez aussi des phénomènes de densification qui fait que dans ces anciens immeubles haussmanniens qu'on évoquait tout à l'heure, on se met à rajouter des étages. Et donc ça, là aussi, quand vous promenez au Caire, ça se voit très vite parce qu'il y a une rupture architecturale. Vous avez des très très beaux bâtiments. Et puis les deux derniers étages, ce sont des étages sans aucune, pour le coup, recherche, en briques, voire... sans enduit, etc. Donc, soit on rajoute des étages, soit ce qui se passe aussi, c'est que vous avez des gens qui se mettent à habiter sur les terrasses, hein, qui construisent des abris, enfin sur les terrasses, puisque les toits sont plats. Vous avez aussi beaucoup de familles qui s'installent sur les terrasses. Donc là, on a une ségrégation qui est un petit peu là aussi, comme au 19e siècle, verticale, avec les familles plus aisées qui habitent dans les grands appartements haussmanniens, etc. Et puis plus vous montez, et là, sur les terrasses, vous avez des gens qui sont généralement ce qu'on appelle les bawabs, donc les concierges qui gardent l'immeuble, et puis d'autres familles. Et donc là, tant dans le livre que dans le film, hein, qui a été tiré de l'ouvrage, on voit assez bien cette double vie, quoi, entre les gens qui habitent les grands appartements et puis les gens sur les petites cabanes sur les terrasses.
Alors comment ça se fait qu'il y ait une telle densification sur quelques immeubles au centre? Pourquoi est-ce que le Caire n'a pas réussi à s'étendre davantage? Est-ce que c'est parce qu'il a été interdit de s'installer sur des terres agricoles pour essayer de les préserver au maximum? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors en fait, non, je me suis mal exprimée. C'est-à-dire qu'il y a deux phénomènes qui sont parallèles. Il y a d'une part, les centres-villes se densifient, hein, donc c'est ce qu'on a dit, rajout d'immeubles, beaucoup de villas sont détruites et remplacées par des immeubles. Donc là aussi, ça pose des problèmes d'urbanisme parce que tous les réseaux qui étaient prévus, les réseaux d'eau, etc., étaient prévus pour des villas. Et on les remplace par des immeubles qui font 30 étages, donc avec, vous imaginez le nombre de personnes. Généralement, il n'y a pas de parking qui sont prévus. Enfin bref. Donc ça, c'est des problèmes qui sont les problèmes des densifications des anciens quartiers, qui touchent tous ces anciens quartiers. Sauf qu'on est arrivé à une limite. Dans certains quartiers, on arrive à une saturation. Et donc, vous avez des quartiers, donc ces quartiers du centre-ville, ces quartiers anciens, les quartiers historiques, qui se sont mis à perdre des habitants. Hein, donc là, on est arrivé à un seuil, et ensuite, les gens sont partis parce que justement, on est arrivé à un seuil trop élevé. Mais par contre, parallèlement, ce qui s'est passé, c'est que la ville s'est quand même étendue, hein, évidemment, puisque sinon, ça aurait pas fonctionné. Et donc, elle s'est étendue de la façon, on appelle ça des quartiers informels ou non réglementaires. C'est-à-dire que les gens ont urbanisé des terres agricoles qui, au départ, n'étaient pas constructibles. Hein. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a une législation de plus en plus sévère pour empêcher de construire sur les terres agricoles. Alors là, peut-être qu'on a aussi oublié de rappeler un point essentiel, c'est que l'Égypte est composée à 95% de déserts. Hein. Donc elle n'a que 5% de sa superficie qui est en terre cultivable, et donc elle se retrouve confrontée à un problème énorme. Entre une croissance démographique très importante, il faut arriver à nourrir cette population, et puis une surface agricole qui est complètement réduite et qui ne cesse de se réduire, notamment suite à la croissance des villes. Donc là, il y a effectivement, depuis les années 60, une législation de plus en plus stricte pour faire en sorte de protéger les terres agricoles. Bon, mais il n'empêche que même si en 96, il y a eu un décret militaire, donc on est de plus en plus strict, mais ça n'a malgré tout pas empêché le développement de ces quartiers informels, alors qu'ils se développent de deux façons, donc soit sur des terres agricoles. La personne qui lotisse est propriétaire de son terrain, hein, donc il n'y a pas de phénomène de squat, ça c'est une deuxième possibilité. Simplement, elle n'a pas le droit de construire. Hein, et donc du coup, c'est la construction qui est illégale. La construction se fait sans permis de construire. Et donc du coup, sans respect non plus des normes d'urbanisme, c'est-à-dire ce qui caractérise ces quartiers, c'est l'extrême étroitesse de ces rues. Hein. Comme on a acheté sa parcelle, on n'a pas envie de laisser trop de place pour laisser passer une rue, donc on laisse un petit bout quand même, parce qu'évidemment il faut qu'on puisse circuler. Mais donc généralement, ces rues sont très étroites. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que on a l'image, quand on dit quartier informel, on pense aux bidonvilles. Et donc, ce ne sont absolument pas des bidonvilles. Enfin, les bidonvilles ont pu exister, mais il en reste très peu en Égypte. Mais là, quand on parle de quartier informel, c'est vraiment des immeubles en dur, construits très haut, hein, qui peuvent aller jusqu'à 6-7 étages au Caire, voire plus. La particularité aussi, ce qui est intéressant, c'est que ces quartiers, comme s'ils s'installent sur des terres agricoles, pour le coup, ils n'ont pas non plus une forme anarchique. Hein, on pourrait imaginer qu'ils ont une forme totalement anarchique. Et en fait, elle est extrêmement géométrique. Et cela, c'est à cause du réseau d'irrigation. Parce qu'en fait, la trame urbaine se calque exactement sur le parcellaire agricole et sur les canaux. Donc en fait, généralement, ce qui se passe, le système d'irrigation, vous avez un grand canal qui apporte l'eau et ensuite des canaux perpendiculaires, hein, qui distribuent l'eau dans les champs. Et donc généralement, les immeubles se construisent de part et d'autre de ces petits canaux perpendiculaires. Et les grands canaux sont comblées au fur et à mesure et deviennent là des grandes artères, puisqu'ils étaient au départ plus larges. Donc vous avez quand même des systèmes de petites voies secondaires intérieures qui sont elles assez étroites, mais des voies plus larges qui correspondent aux anciens canaux. Les grands canaux ne sont pas comblés tout de suite, souvent ça met un peu de temps, donc ça sert pendant très longtemps de dépotoir, parce qu'évidemment dans ces quartiers-là, vous n'avez aucun service public, hein, puisque ce sont des quartiers qui sont bâtis... sans aucune, en dehors de la législation.
Donc pas de voirie, de système d'adduction d'eau.
Voilà. Alors au départ, pas d'électricité au départ. Bon, sauf que petit à petit, ce qui se passe, c'est que généralement, surtout pour l'électricité et aussi pour l'eau, les raccords interviennent. Ça prend du temps, il faut que les gens se mobilisent, généralement il y a des luttes. Mais malgré tout, aujourd'hui, la majorité de ces quartiers-là sont électrifiés, il y a de l'eau. Mais tout vient a posteriori et tout est le fruit de luttes. Pour récupérer ces services. Mais au départ, il n'y a pas d'école non plus, il n'y a pas de ramassage, c'est des quartiers qui ne sont pas desservis par les transports. Et tout ça se conquiert au fur et à mesure.
On va voir après justement tout ce qui est de l'ordre de la planification. Pour avoir une idée de tout le réseau urbain en Égypte, cette croissance sauvage et ces quartiers informels ne sont pas propres au Caire. Il y a aussi d'autres villes en Égypte où il y a le même phénomène.
Tout à fait. Non seulement c'est pas propre au Caire, c'est propre à l'ensemble de l'Égypte, mais c'est aussi un phénomène qu'on retrouve en Amérique latine, en Afrique. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait commun aux grandes villes. Dans les villes secondaires que j'ai étudiées, on retrouve exactement le même processus et avec à peu près la même proportion, et surtout le fait qu'aujourd'hui, l'essentiel de la construction, les chiffres varient entre 60, 70, voire 80%, des immeubles qui sont construits selon ce mode-là, informel. Donc c'est vraiment quelque chose qui devient majoritaire, mais c'est aussi parce que l'offre de logement officiel n'est pas abordable pour la majorité des personnes qui cherchent à acquérir un logement.
Alors est-ce que ces quartiers informels à Luxor, à Alexandrie, se sont développés à la même période que ceux au Caire, ou est-ce que ça s'est fait après coup, parce que la densification du Caire devenait insupportable, que d'autres villes se sont développées ultérieurement? Comment ça s'est fait?
Non, alors ça, c'est, on peut dire que ce sont des dynamiques qui sont propres à chaque ville, parce que chaque ville a sa croissance. Surtout, pour, en fait, les villes secondaires, elles ont aussi, dans une moindre mesure, parce que quand on parlait des flots d'exode rural, la majorité de l'exode rural, c'est quand même... Enfin, la majorité, oui, souvent c'est à peu près au moins la moitié, c'est dirigé vers le Caire. Mais il y a eu aussi des mouvements massifs, bon, à une échelle moindre parce que par rapport au Caire, mais il y a quand même eu des mouvements de gens qui ont quitté les campagnes pour s'installer justement dans ces villes secondaires. Et donc là, du coup, les mêmes processus, peut-être un peu plus tard, mais globalement, les mêmes processus se sont mis en place dans les villes. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est parce qu'on a souvent l'image, et en Égypte, on joue beaucoup là-dessus, sur ces quartiers informels qui seraient peuplés de ruraux. Et donc on parle de ruralisation de la ville... Et on dit que ce sont des ruraux. Donc ça a pu être vrai dans les années justement 40, 50, 60, à l'époque où l'exode rural était très fort. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut bien dire, c'est que cet exode rural, il s'est arrêté. Il a vraiment énormément diminué. Vous avez énormément de gens aussi qui quittent le Caire. Donc il y a beaucoup de mouvements de retour. Et globalement, aujourd'hui, ces quartiers informels, ils augmentent sous le fait de ce qu'on appelle la décohabitation des ménages. C'est-à-dire que c'est des gens qui quittent les quartiers justement trop denses du centre-ville, où il n'y a plus d'offres de logement, et qui vont s'installer dans ces quartiers informels plus périphériques. Donc aujourd'hui, ces mouvements-là, ils sont beaucoup plus issus de déconcentration urbaine, de mouvements de déconcentration du centre vers la périphérie, que de mouvements de gens ou de paysans qui débarqueraient de leur campagne, qui viennent s'installer dans ces quartiers-là.
Donc plus des classes moyennes aussi.
Aussi. Alors là aussi, c'est important de souligner, parce que justement, on a parfois une vision un petit peu misérabiliste de ces quartiers. Et effectivement, au Caire, la superficie, je crois que c'est 46% du Caire qui est informel, et ça touche à peu près la moitié des habitants habitent dans des zones informelles. Donc évidemment, c'est un phénomène qui touche très largement les classes moyennes. Au fur et à mesure qu'un quartier acquiert justement tous les services qui lui faisaient défaut, il prend de la valeur. Et donc vous avez là aussi des mouvements de gens qui s'étaient installés dans un premier temps dans un quartier, le quartier prend de la valeur, ils n'ont plus les moyens de payer un loyer, et donc ces gens-là peuvent migrer vers un quartier plus périphérique qui sera moins reconnu, mais où il y aura des loyers qui restent encore abordables. Donc il y a aussi des mouvements comme ça de fuites successives vers la périphérie. Mais globalement, oui, ce sont des quartiers de classe moyenne.
Alors, quartier informel, parmi les quartiers informels, évidemment, les fameux cimetières et monuments funéraires qui ont été investis par des habitants. C'est toujours le phénomène le plus étonnant du Caire.
Oui. Ce sont effectivement les quartiers informels les plus célèbres, même si en termes de population, ça rassemble assez peu de monde. Je crois que c'est 200 000 personnes, dont en plus 20 000 seulement habitent vraiment sur les tombes. Enfin, parce que c'est vrai que souvent, en fait, comme ces quartiers-là sont très étendus, ça fait un petit peu comme une ville dans la ville. Et donc, la majorité des constructions se sont construites dans les interstices. Tout le monde n'habite pas sur les tombes. Mais c'est vrai qu'il y a un petit nombre de familles qui ont récupéré les petites pièces. Enfin, pas sur toutes les tombes, hein, vous avez aussi des tombes qui sont très simples, mais certaines sont effectivement surmontées d'une petite pièce, soit en bois, soit construites là aussi en dur. Et donc à partir de ce moment-là, se sont installées. C'est à la fois très emblématique et à la fois c'est pas représentatif de l'ensemble des quartiers informels du Caire. Mais c'est vrai que c'est quand même très particulier et ça souligne bien ces gros problèmes de densité et de crise du logement que connaît le Caire.
Alors, marquons une toute petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre cette conversation sur l'urbanisme au Caire.
Thank you.
Delphine Pagès-El-Khaaroui, nous parlions de cette croissance du Caire qui est difficilement maîtrisable et de ces populations qui ont de plus en plus de mal à se loger et parallèlement qui font face à une crise de l'emploi. Il y a tout un phénomène social qui fait que la génération, les deuxièmes, troisièmes générations, les jeunes ont du mal à trouver un logement, à trouver un emploi et sont amenés souvent à migrer même.
Oui, alors c'est assez récent pour l'Égypte hein, parce qu'en fait ça correspond tout à fait à la période d'ouverture économique. Donc Sadat, qui était au pouvoir dans les années 70, a complètement rompu avec le modèle d'économie socialiste qui avait été mise en place par Nasser et donc a décidé d'ouvrir le pays. Donc à la fois d'un point de vue économique par rapport aux investissements, etc., mais aussi pour les hommes. Et donc à ce moment-là, il a été facile pour les Égyptiens de migrer, de travailler à l'étranger. Donc au départ, dans les années 70, la très forte majorité s'est dirigée vers les pays du Golfe. Et aujourd'hui, ces flux se diversifient. Enfin, ils sont toujours très nombreux dans les pays du Golfe, mais on en retrouve aussi en Europe, en France, en Italie. Les Égyptiens sont très nombreux en Italie ou en Grèce. Et donc là, la migration prend vraiment une proportion très importante. Et là, c'est aussi lié, on va dire, aux structures familiales. C'est-à-dire qu'en Égypte, c'est au mari d'apporter l'appartement. Alors évidemment, c'est mieux s'il peut apporter un appartement dont il est propriétaire. Mais vu la crise du logement actuellement, c'est compliqué. Donc souvent, il sera uniquement locataire. Mais là aussi, il y a une telle rareté des biens qu'on fait payer ce qu'on appelle un pas de porte pour une location. Vous devez payer une somme tout à fait conséquente et ensuite vous payez vos loyers, mais vous devez au départ réunir une somme vraiment importante et qui est différente d'une caution, enfin, ou d'une, vous ne récupérez pas cette somme quand vous quittez l'appartement. Donc tout ça fait que pour se marier, qu'on achète ou qu'on loue, on a besoin d'énormément d'argent. Et vu les opportunités d'emploi qui sont assez faibles aujourd'hui en Égypte, il y a effectivement beaucoup de jeunes gens, donc des hommes, qui migrent. Tout ça contribue aussi à retarder l'âge du mariage, hein, parce que du coup, c'est des gens qui partent généralement après avoir fait des études, plus ou moins longues, mais donc ils peuvent rester 5-6 ans à l'étranger et revenir se marier à l'âge de 30 ans, une fois qu'ils ont un petit peu économisé. Non seulement il faut arriver à trouver un logement, mais il faut aussi l'équiper. Hein, et donc tout ce qui est meubles, équipements électroménagers, etc., est aussi à la charge du mari.
Donc nous parlons de crise du logement et pourtant les choses ne sont pas si simples puisqu'il y a beaucoup de logements qui sont vides,
oui,
inoccupés.
Alors ça c'est aussi un problème. En Égypte, il y a eu, et enfin il existe toujours, une loi qui visait à protéger les locataires, qui est un petit peu l'équivalent de notre loi de 48, avec des loyers bloqués. Ce qui fait que vous avez beaucoup de gens qui se retrouvent aujourd'hui à payer des loyers dérisoires. Et cette loi était aussi tellement favorable aux locataires que vous pouviez aussi pratiquement transmettre votre bail à votre héritier. Donc il y a un système qui est assez défavorable aux propriétaires, ce qui explique aussi qu'il y ait beaucoup d'immeubles qui sont totalement décatiés au Caire, c'est que les propriétaires n'ont plus assez d'argent, comme ils ont un loyer très faible, n'en reçoivent plus d'argent, ne l'entretiennent plus. Et ça explique aussi qu'il y ait beaucoup d'appartements vides, parce que les gens préfèrent ne pas louer leur appartement plutôt que de le louer à un loyer dérisoire. Alors ça, ça a changé, c'est-à-dire que depuis 1996, il y a une nouvelle loi qui fait que pour les logements construits après cette date, cette loi-là n'est plus applicable. Hein. Mais sinon, ça reste valable pour les anciens logements. Et disons, on va dire pour les nouveaux contrats. Si vous signez maintenant un nouveau contrat, ça sera plus valable. Mais donc ça, c'est important. Et c'est, enfin, il y a ça, plus aussi une énorme frénésie de spéculation immobilière. Donc vous avez aussi énormément d'appartements qui sont neufs, mais qui sont à des loyers qui sont trop élevés pour la majorité de la population. Et donc, ils restent inhabités. Mais c'est vrai qu'on peut avoir, enfin, dans les villes égyptiennes, on a entre 15 à 20% des logements qui sont inoccupés.
15 à 20%.
Donc, c'est énorme et c'est paradoxal. Justement, à un moment où on parle de crise du logement, il y a des logements qui existent, mais qui sont pas accessibles, en fait, à la majorité de la population.
Alors, pour faire face à cette crise de logement, nous parlions de l'interventionnisme de l'État, enfin de l'État, c'était pas encore l'État, au 19e siècle. Depuis les années 50-60, quand même, il y a eu des schémas directeurs du Caire. Enfin, on a essayé de rationaliser un petit peu justement tous ces quartiers informels. Il y a eu des schémas de construction de ponts, de boulevards périphériques, de villes nouvelles. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui ont été pensées. Qu'est-ce qui est aujourd'hui construit? Qu'est-ce qui est fait?
Alors, du point de vue des quartiers informels, il y a quand même une politique, alors que pendant très longtemps, on a laissé faire, on a fermé les yeux. Là, il y a de plus en plus une politique de régularisation. On régularise a posteriori, où on équipe aussi a posteriori ces quartiers-là qui manquaient de services publics de base. Et sinon, il y a effectivement de très grands projets, donc là en termes d'urbanisme, de planification urbaine, dont je crois le meilleur exemple est quand même la construction des villes nouvelles hein, autour du Caire. Donc c'est toujours cette question du contexte. Ces villes nouvelles, elles servent à la fois à résoudre le problème du logement et aussi elles sont toujours dans cette même optique de faire en sorte que la ville ne s'étende pas sur les terres agricoles. Parce que le Caire, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment à la croisée entre le nord, le delta du Nil, et au sud, la vallée. Et donc c'est plus facile, les quartiers informels dont on parlait tout à l'heure, majoritairement, ils se développent sur les terres agricoles. Et donc, ils détruisent hein, ce potentiel agricole, ces terres agricoles. D'où l'idée de ces villes nouvelles. Les villes nouvelles ne sont implantées que sur des terrains désertiques. Hein. Donc, c'est un double objectif. Faire en sorte de déconcentrer les populations du Caire, faire en sorte un petit peu de diminuer cette très forte densité, mais aussi de détourner la croissance urbaine des terres agricoles. Hein, et ça, c'est très important. Donc, il y a eu toute une politique, effectivement, qui a été lancée dans les années 70, mais qui a commencé à devenir effective dans les années 80, de construction des villes nouvelles. Alors, autour du Caire, mais pas seulement, hein, il y en a aussi autour d'Alexandrie, autour de Damiette, de la Vallée. Donc, on lance ce programme de villes nouvelles, mais on va dire que les plus grandes sont effectivement autour du Caire. Alors là, au départ, hein, encore une fois, le but, c'était de déconcentrer la population de la capitale, donc de créer des centres urbains autonomes. Donc au début, on les a surtout pensés, en fait, assez loin du Caire.
Des villes dortoirs, en fait.
Exactement. Le but, c'était d'éviter absolument les villes dortoirs. Et donc, dans un premier temps, on les a construites assez loin du Caire pour qu'elles soient autonomes. Et on les a dotées de zones industrielles pour faire en sorte qu'il y ait des emplois et que ce ne soient pas des villes dortoirs. Donc les premières, elles sont assez loin, en fait, du Caire. Hein. Vous avez des villes comme Sadat City, qui est à mi-chemin entre Le Caire et Alexandrie. Ce qui est intéressant, c'est que ces villes-là, elles sont aussi pensées à une échelle nationale, c'est-à-dire qu'elles sont placées sur des grands axes nationaux. Donc vous avez Sadat City qui est à mi-chemin entre Le Caire et Alexandrie. Vous avez aussi une ville comme Diz de Ramadan, hein, qui est sur la route d'Ismaïlia. Et donc elles sont quand même, on va dire, plus de 50 km du Caire. Le problème, c'est qu'au départ, ça n'a pas très bien marché. Hein, et en fait, finalement, ce qui a mieux marché, ce sont les zones industrielles. Donc il y a eu énormément d'incitations fiscales, hein, pour que les entreprises s'installent dans ces zones industrielles. Donc beaucoup d'emplois ont été créés. Simplement, on est arrivé à l'effet totalement inverse, c'est-à-dire qu'on avait des centres actifs d'un point de vue des emplois, mais les gens ne voulaient pas s'installer dans ces villes. Et donc, ils faisaient les allers-retours dans l'autre sens. Donc, c'était exactement l'inverse des cités dortoirs, où les gens habitaient au Caire ou dans le Delta et faisaient des trajets, parce que assez loin, hein, voire 2 heures de transport par jour, pour aller travailler dans ces villes et rentrer chez eux le soir. Donc ça, ça a été la première phase. Ensuite, on va dire depuis le milieu des années 90, il y a eu un nouveau développement, mais qui a un petit peu perverti, en tout cas détourné de son objectif initial des villes nouvelles. Ça a été un petit peu récupéré par des classes aisées, où on se met à développer des cités résidentielles fermées, hein, autour de piscines, de golf, de projets, de grands projets, de loisirs. Hein. Vous avez une cité résidentielle qui s'appelle Dreamland, autour d'un golf, d'un parc d'attractions.
Donc fermé avec des grilles, avec surveillance,
tout
etc.
à fait. Vraiment sur un. Et donc voilà, autour d'hôtels, vous avez quand même des hôtels à l'intérieur, etc. Mais c'est vraiment là aussi un type d'urbanisme. On parlait de la rupture au 19e siècle, un modèle urbain occidental, etc. Là, c'est à nouveau une nouvelle rupture en fait, hein, en termes d'urbanisme, parce que c'est totalement étranger, mais sur un mode qui ressemble à ce qui se passe beaucoup en Amérique latine, par exemple, hein, ces cités fermées. Donc là aussi, on voit à nouveau des villas hein, se développer avec des piscines, enfin quelque chose qui n'existe pas du tout au Caire. Et donc, ça présente un petit peu une sorte de double mythique du Caire. On est à la fois pas très loin du Caire, hein, donc là aussi, changement de logique. On construit, les villes nouvelles sont maintenant de plus en plus proches du Caire. Et ça serait la ville un peu idéale, loin du bruit, de la pollution, etc. Et donc, on crée des nouveaux quartiers comme ça. Et bon, malgré tout ça, ça a quand même contribué à faire venir des gens parce que du coup, on a des universités privées qui se sont installées, des hôpitaux privés, mais ça correspond aussi évidemment à un autre modèle de société, hein, qui est dans la ligne directe de l'ouverture économique, etc., mais où on a un petit peu détourné, en fait, le projet initial d'arriver à loger des populations moyennes ou à bas revenus. Là, c'est en train de partir dans une autre direction, mais malgré tout, c'est ça aussi qui insuffle du dynamisme. Donc, on peut penser que c'est aussi ça qui... Bon, et à la fois, ce que je dis est aussi très limité. Globalement, ça se passe surtout autour d'une ville qui s'appelle 6 Octobre, hein, qui, elle, fonctionne très bien, se développe très bien. Mais aussi, elle se développe très bien parce que, assez récemment, enfin, à la fin des années 90, on l'a raccordée au Caire. Parce que, comme justement, on voulait surtout pas en faire des cités dortoirs, on n'a pas du tout privilégié les transports en commun. Donc, elles étaient très isolées. Et c'est aussi pour ça que les gens voulaient pas s'installer, parce qu'il n'y avait pas tous les systèmes de microbus, etc., qui les relie au Caire. Donc les gens se sentaient isolés. Et là, depuis que justement, on ne pense plus ces villes comme autonomes, hein, finalement, on les pense comme des banlieues assez lointaines du Caire, mais elles sont à nouveau pensées comme banlieues, ben là, ça marche. Et là, il y a des
infrastructures qui commencent à se mettre en place.
Tout à fait. Des universités, des banques. Là aussi, selon un système anglo-saxon, vous avez le système des clubs, hein, qui, là aussi, réservé aux classes les plus aisées. Vous avez une branche des clubs les plus chics qui se sont installés à 6 octobre. Donc voilà, c'est une nouvelle dynamique. Ça fait que ces villes-là qu'on a longtemps parlé, on les a longtemps qualifiées de villes fantômes parce que vous aviez des kilomètres et des kilomètres, enfin, en termes de paysage, c'est assez impressionnant.
De désert
et puis d'immeubles, hein, mais sans rien. Parce qu'il y avait aussi, là aussi en termes d'aménagement, il y a eu un gros problème au niveau de la centralité. On n'a pas réussi à créer une centralité, il y avait très peu de commerce au début. Donc les gens ne voulaient pas s'installer en plein milieu du désert, au milieu de nulle part. Et donc c'est petit à petit qu'il y a quand même une vie hein, qui se crée dans ces villes, elles sont en train de se peupler. Mais on est encore très loin, évidemment, on parlait d'un million d'habitants et pour l'instant on est plutôt autour de 200 000, je crois, qui habitent dans l'ensemble de ces villes-là. Et ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a là j'ai parlé de 6 octobre, qui est peut-être la plus belle réussite, hein, celle dont on parle le plus, à la fois d'un point de vue industriel, parce que la zone industrielle de 6 octobre est très développée, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont installées, beaucoup de partenariats avec des entreprises étrangères, mais vous avez aussi ce qu'on appelle des new settlements, c'est-à-dire là c'est plutôt des petits quartiers qui se développent, mais là aussi globalement, toujours sur des terrains désertiques, hein, c'est toujours la même idée de protéger les terres agricoles, mais de plus en plus proches du Caire.
On parle aujourd'hui d'une ville qui fait 12 millions d'habitants. Est-ce qu'au niveau de la démographie et du taux de croissance naturelle, ou est-ce que, le Caire va continuer à s'accroître à la vitesse qu'on a connue dans les dernières décennies? Qu'est-ce qui est prévu, planifié?
Alors, en fait, là, ce qu'on a constaté depuis les années 80, c'est qu'il y a une baisse importante des taux de croissance de la ville. En 96, on était à peu près autour de 1, 1,4, en dessous de la moyenne nationale de l'Égypte, qui était autour de 2,1. Donc aujourd'hui, la ville du Caire ou l'agglomération du Caire, ça croît moins vite que la moyenne nationale. Hein. Donc effectivement, les rythmes diminuent. Enfin, disons que la ville continue à s'accroître, mais beaucoup moins rapidement qu'autrefois. Et par contre, les localités qui connaissent là des croissances records, ce sont toutes les localités qui sont autour de la ville, des petites localités qu'on pourrait qualifier de périurbaines, qui sont plus dans l'agglomération, mais qui sont à proximité, et où vous avez beaucoup de gens qui, justement, certains quittent le Caire pour s'installer dans ces bourgs, en fait. C'est plus vraiment des villages parce qu'ils sont largement urbanisés. Et vous avez un système de transport en commun par le biais de taxis, par le biais de microbus, qui est très, très performant, qui est relativement peu cher, encore que là aussi, avec la crise économique, ça commence à faire lourd. Mais en tout cas, l'équilibrage entre des loyers moins chers dans ces bourgs périurbains et une certaine somme à consacrer pour le transport font qu'il y a quand même beaucoup de gens aussi qui quittent cette agglomération et qui vont s'installer dans ces bourgs périurbains, ou alors qui, dans les années 40, les auraient quittés pour venir s'installer en ville et qui, là, ne les quittent plus. Et puis, ça ne les empêche pas de venir travailler en ville tous les jours.
Merci beaucoup Delphine Pagès-El-Karoui. Je rappelle que vous êtes géographe, vous enseignez aux langues zo à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales et vous êtes spécialisée dans les villes secondaires en Égypte. Merci beaucoup.
Merci.